Bonjour, nous sommes le 25 avril 2011. Je vais vous faire écouter le podcast de mon papa, Proxy Jeu.
Bonsoir Jérémy.
Bonsoir Olivier.
Avant de commencer, je crois qu'on voulait remercier chaudement Yvan, qui a eu la gentillesse de nous mettre plein de commentaires, qui nous a fait plein de remarques constructives et c'est très très sympathique. Merci aussi de nous avoir mis une note sur iTunes. Donc n'hésitez pas, allez sur iTunes.
Ainsi qu'aux 4 autres personnes, puisqu'il y a 5 notes.
Oui. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, soit sur iTunes, soit sur notre blog, podcast.proxy-jeu.fr. Et surtout, dites-nous ce que vous aimez, puis surtout ce que vous n'aimez pas. On essaiera de faire en sorte de s'améliorer. Et puis, un grand merci à Gus & Co, enfin Gus de Gus & Co, qui a fait un gentil billet sur nous, sur les podcasts. Et donc, on fait partie maintenant de la grande famille des podcasts ludiques. Et merci encore. Et donc les news. Alors, on va vous reparler encore de Pac-Man, encore et toujours. Alors d'abord, pour vous dire que Gus de Gus & Co, encore lui, a décidé d'organiser des Pac-Man urbains. Et il a repris l'idée de Pac-Man à Lyon, et il va organiser tous les deuxièmes samedis de chaque mois un Pac-Man à Genève, dans le quartier des banques. Alors ça m'a bien fait rire quand j'ai lu ça, parce que j'imagine des Pac-Man et fantômes habillés de couleurs bariolées en train de se promener... dans les rues bien, bien droites du quartier des affaires, avec les messieurs en...
Et les vigiles.
Donc les messieurs en costume et cravate avec les grosses valises pleines de bifetons et les vigiles. Le premier sera le 14 mai, à 14h14 rue du village suisse. C'est là que démarreront les parties de Pac-Man, 10 joueurs, 4 fantômes, 4 contrôleurs... Puis un Pac-Man et son contrôleur, donc ça fait 10. Ça fait partie de 18 à un quart d'heure. N'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment sympa. Deuxième news concernant les Pac-Man. Alors c'est Corben, vous connaissez peut-être Corben.info, qui est un site plutôt geek. Je vous mettrai le lien sur le blog. Il a mis une URL pour le plus grand Pac-Man du monde. En fait, c'est... des Pac-Man, au lieu d'avoir un seul labyrinthe, on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de labyrinthes de Pac-Man reliés les unes aux autres. Quand vous en avez fini un, vous allez accéder au suivant, et c'est monumental. Et vous pouvez créer vous-même votre propre labyrinthe Pac-Man. Voilà, c'est une petite chose toute simple, c'était pour rappeler que Pac-Man, c'est notre mascotte.
On enchaîne sur l'annonce par le Spiel des CRS. Ils vont sortir un nouveau prix. Le Kenner Spiel des CRS, donc c'est le prix des connaisseurs. C'est-à-dire, alors j'ai essayé de comprendre, l'article était en allemand. Mes souvenirs d'allemand remontent à quelques décennies. Il s'agit en fait, le jury du Spiel s'est rendu compte effectivement que son prix ne correspondait plus forcément aux attentes des joueurs. Ils s'en sont rendu compte, j'imagine, avec tous les autres prix, on va dire, comment il s'appelle, le Deutsche
Spielpreis,
notamment. Et donc, pour rattraper ça, parce qu'en fait, le Spiel, à la base, c'est le prix qui va pour le grand public. C'est si les gens veulent découvrir le jeu de société, ils veulent acheter un jeu, c'est un peu comme le Goncourt pour les livres, ils prennent le Spiel de l'année, et puis voilà. Pour donner une idée, Carcassonne, les Aventuriers du Rail sont des grands... les Colons de Catane sont des jeux qui ont été primés par le Spiel. Et donc, pour contenter un peu tous les joueurs, ils vont également donc ils ont imaginé le prix des connaisseurs, donc le Kenner Spiel des CRS. Le logo sera gris cette fois-ci et sera donc pour récompenser un jeu pour des joueurs qui sont déjà initiés.
Oui, gris parce que c'est pas marrant quoi.
Voilà.
Non. Un jeu de connaisseurs, c'est pas super marrant. C'est la ségrégation.
C'est gris. Ou alors, c'est qu'ils ne savent pas encore la couleur. C'est vrai que c'est un peu...
Non, c'est possible.
Parce que le bleu est déjà utilisé pour les enfants. Vert ou jaune, ça ne devait pas aller. Voilà. On attend de voir. Donc, ils annonceront tout ça en même temps que les autres prix cette année. Donc, ça, c'est un peu décalé avec le temps. Je crois qu'ils annoncent maintenant les nominés qu'en fin mai ou juin même. Et les lauréats, ça arrive encore plus tard dans l'année. On verra bien ce qui va gagner le Kennerspiel de Cyrus.
Ouais, pour vous donner une petite idée de ce prix mythique, le premier était décerné en 1979, c'était Le Lièvre et la Tortue de David Parlett. C'est un jeu qui est formidable, qui se joue à beaucoup et qui est vraiment très très, très très fun. Alors là, pour le coup, c'est un jeu calculatoire où carrément. On peut avancer vite mais en payant beaucoup, ou reculer pour... gagner des salades qui vont nous faire avancer, des carottes qui vont nous faire avancer. Donc c'est très 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 bon jeu. C'est un jeu qui a 40 ans.
Ouais, la particularité du jeu, c'est qu'il... Enfin, il a un peu... Plutôt 30 et quelques. Il
a pas 79.
Eh ben ouais, ça fait que 32
ans. Ça fait 32 ans.
Nous ne sommes pas encore... Cher public, si tu t'es trompé, non, nous ne sommes pas en 2019. Donc, le principe du jeu, enfin la force du jeu par rapport à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de dés dans la boîte. Puisqu'en fait, les déplacements, c'est nous qui choisissons de combien de cases on avance. On paiera plus cher, mais on peut avancer de beaucoup de cases.
Alors, il y a quand même une part de hasard. Ouais, excuse-moi.
Petite anecdote drôle, quand même. J'ai un ami qui était vendeur à l'époque m'a raconté qu'il avait des clients qui lui ramenaient le jeu en disant « mais il n'y a pas le dé dans la boîte ». Pour montrer un petit peu l'avant-garde qui était le jeu.
Alors, petite précision, il y a quand même du hasard. C'est-à-dire, on gagne des carottes en reculant. Plus on est loin dans le classement, et plus on va gagner des carottes, ça équilibre un petit peu les choses. Plus les déplacements sont courts et moins on va payer de carottes. Donc en plus on va avancer au train de la tortue et plus on aura des réserves de carottes. Mais parfois il faut aller plus vite. Et il y a une carte qui est la carte lièvre qui permet d'avoir c'est l'élément hasardeux du jeu. Qui donne soit des carottes, soit... Alors, ça peut être négatif ou positif. J'ai plus effet en tête. Mais plus on est en avant... Toujours, l'idée est toujours la même. Plus on est en avant dans la course, et moins l'effet est bénéfique. Plus on est en retard, et plus ça va nous faire avancer. Encore le lièvre et la tortue.
Là encore, c'était aussi d'avant-garde, quoi. Les jeux allemands déjà équilibrés à l'époque.
Oui. Il a été réédité, et il a été réédité avec un dé. Où en fait cet effet était tiré avec des cartes au départ, et ensuite il y a eu une table avec un tirage de dés. Bon, ça c'était le premier, on va pas tous les faire parce qu'il y en a eu 30
et quelques,
31 peut-être. Et le dernier c'est Dixit. Voilà. Donc, alors,
Dominion en 2009.
Voilà, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en 2008 il y a eu Keltis, et déjà. En 2006-2008, il y a eu Caius qui a été reconnu.
Oui, il a eu un prix du jury, enfin comme ils font à Cannes, un prix du jury, un équivalent.
Meilleur jeu complexe. Et puis Agricola,
ouais.
Qui a été également récompensé comme meilleur jeu complexe. Donc le jury a peut-être eu envie justement de mettre en avant des jeux comme Coloretto, Keltis, Dixit, des jeux familiaux. Et puis également... récompenser des jeux plus
Dominion en 2009 avait été un peu la surprise, parce qu'effectivement c'est un jeu qui était novateur. Le principe du Spiel, hein, le jury essaie de récompenser des jeux qui amènent un concept nouveau aussi. Ils vont pas primer un jeu qui ressemble déjà à ce qu'on a déjà vu plein de fois. Je parle pas d'une copie du Monopoly, hein, parce que là, il croûterait sous les demandes. Et donc c'est vrai que Dominion était sans doute le jeu le plus novateur cette année-là, mais pour autant il était moins grand public que plein d'autres jeux. Et j'étais étonné de le voir remporter le prix. Maintenant, avec leur nouveau prix, on peut imaginer que ce sera Dominion qui aurait le Kennerspiel, et un jeu plus familial pour le prix le Spiel des Cyrus.
J'ai trouvé un site un petit peu rigolo qui s'appelle Tête de l'Art, shop.tetedelart.fr, où on peut trouver des badges rigolos. C'est-à-dire des badges avec des meeples, des badges avec Colons de Catan, qui rappellent un petit peu notre hobby. Ils sont vendus 1 euro pièce et ils sont tout rigolos. Donc je vous mettrai l'URL sur le site.
On Info suivante, c'est, on vous en avait parlé, il me semble un petit peu déjà, de Olympos, le futur Istari. Alors que Oz est sorti cette semaine, Olympos, on nous annonce qu'il est un petit peu repoussé. Alors repoussé, pas de beaucoup, et c'est pas dû au tsunami au Japon. C'est simplement, je sais pas. Enfin bref, il arrive en juin, il devrait arriver début juin. Pour autant, Istari propose quand même sur son site déjà de pouvoir normalement regarder le matériel, et puis la règle du jeu arrive bientôt.
Après, c'est un problème d'illustration qui a fait que le jeu a été repoussé a priori en juin, c'est ça ?
C'est ça, oui, ils ont annoncé pour juin. Petit fil conducteur, l'auteur de Olympos, c'est Philippe Kayertz. Et la news suivante, je voulais vous parler justement de Asmodée, qui remonte ce qu'ils appellent le studio Descartes. Alors Descartes, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était un éditeur, on va dire qu'il a été mythique, parce qu'un des principaux éditeurs français pendant longtemps, dans les années 80-90... qui malheureusement s'est éteint, mais qui a été repris par Asmodée. On a dû quelques excellents jeux chez Descartes, notamment pas mal de jeux de rôle à l'époque. Et puis sous leur ligne Eurogames, ils avaient sorti Evo, un petit jeu aussi de Philippe Kayertz, qui était bien sympathique, qui n'était pas le jeu du siècle, hein, mais qui était agréable, on rigolait bien. Moi, mes souvenirs, c'est qu'on se faisait des bonnes parties de franche rigolade.
Je confirme, j'ai passé... C'était, en fait, lorsque je suis rentré dans le jeu de société, c'était un des premiers jeux que j'ai acheté. C'est un jeu d'évolution où, en fait, on fait évoluer son petit dinosaure, on lui rajoute des cornes, des pattes, des œufs.
Il y a une vente aux enchères pour récupérer des mutations pour faire évoluer, parce qu'il faut survivre dans tout ça, évidemment.
C'est ça.
Le monde est cruel.
Avec une échelle de temps, la météo, en fait, il change. Et en fonction de la façon dont on a boosté son dinosaure, on aura plus ou moins de chances de survivre. C'était vraiment bien trouvé. C'était très agréable. C'est très agréable d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on en parle au passé.
Justement, parce que ça tombe bien, puisque justement, à travers ce studio Descartes qui vient de monter Asmodée, ils espèrent pouvoir le faire revivre, ressortir Evo. Alors, ils veulent aussi le faire l'adapter. Lui aussi, il aura le droit à ses petites mutations pour survivre dans le monde cruel du jeu de société moderne. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Ils ont ouvert un petit blog, on vous mettra le lien, c'est studiodescartes.com pour suivre tout ça.
Une autre news qui date un tout petit peu, mais enfin qui est toujours d'actualité, c'est qu'on aura pour Essen 2011, donc Essen c'est le plus gros rassemblement de joueurs et d'éditeurs. Jérémy me fait des grands signes.
Ah, pour dire c'est super bien Essen, faut y aller.
Ça se passe donc Essen, c'est un salon du jeu de société en Allemagne, c'est dans la banlieue de Düsseldorf, c'est 150 000. Visiteurs sur 4 jours, c'est incroyable, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. C'est un petit peu la mecque du joueur en fait. Et donc, c'est également un des rendez-vous pour les éditeurs pour la sortie de leur jeu de société. Et là, on a d'un côté chez Trifrog, qui est la boîte d'édition de Martin Wallace. Martin Wallace, vous ne pouvez pas ne pas le connaître, c'est lui qui a fait Edge of Steam. Ah si, vous n'aimez pas les trains, donc vous ne savez pas. Martin Wallace, c'est aussi Edge of Industry. C'est aussi en ce moment Last Train to Wensleydale, qui a été réédité l'année dernière en First Train to Nuremberg. C'est quelqu'un qui aime beaucoup partir d'un thème, comme dans Liberté. Liberté qui retrace la Révolution française, ou Brass, qui a pour thème la première révolution industrielle. Et là, en l'occurrence, il change son fusil d'épaule, puisque son prochain... Blockbuster va sortir à Essen et aura pour thème le Disque Monde. Donc le Disque Monde, c'est l'univers de Terry Pratchett. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, il s'agit d'un univers rond, c'est une planète ronde, plate, qui est soutenue par 4 éléphants qui tiennent sur une tortue géante qui marche lentement, enfin je ne sais pas si on peut dire marcher pour une tortue dans l'espace, qui marche dans l'espace et qui nage dans l'espace. Donc, Ankh-Morpork, ce sera un jeu de cartes et de majorité pour 2 à 4 joueurs qui ne devrait pas être très très long, à peu près 60 minutes, avec un système de rôle et des conditions de victoire spécifiques. C'est ça qui va faire un petit peu tout le piment du jeu. A priori, ce sera quelque chose de très simple. Et j'attends de voir ça avec impatience, puisque... Martin Wallace a fait London l'année dernière, un Brain Exploder, je ne sais pas comment on peut dire.
Excellent jeu, mais effectivement, c'est pas pour tout le monde. Mais là, c'est une commande ou c'est un jeu de lui-même?
Je ne sais pas.
En tant que fan, il s'est dit, tiens.
Je ne sais pas. Et donc, tu me parles de fans, de jeux de fans. David Brashaw et Leonard Boyd, eux, ont décidé de sortir chez Z-Man Game, un jeu qui doit s'appeler en version originale Guards Guards. Donc, c'est le huitième épisode de la série. C'est Ogay qui raconte l'histoire du gay. J'adore, je suis fan du gay des Orfèvres. Donc, eux ont décidé de faire quelque chose beaucoup plus en rapport avec le thème du monde, du disque monde. C'est-à-dire qu'on va certainement y retrouver les mages, on va y retrouver les sorcières, on va y retrouver le gay, bien sûr, avec les guildes, les voleurs, les assassins, tout ça. Donc on sait que Vetterini est mort. Vetterini, c'est le patricien, le maire, en fait, mais tout puissant de Ankh-Morpork. Et donc il va falloir enquêter sur sa mort. Donc rien à voir avec, avec Ankh-Morpork de Wallace, quelque chose d'un peu plus complexe à mon avis, beaucoup plus dans le thème, avec des cartes qui vont rappeler l'univers. Donc si vous aimez le fluff Disque Monde, je pense que ça peut être aussi intéressant de garder un œil là-dessus. Si vous connaissez pas les romans, jetez-vous dessus. Alors je vous conseille pas de commencer par le début. Jérémy, tu me disais que toi, t'étais pas très très chaud par rapport aux annales du Disque Monde.
Non, j'ai lu ça dans ma jeunesse. Je me rappelle pas avoir accroché des masses à Pratchett.
Tu as commencé par le début.
Bah oui, la huitième, je sais pas quoi, huitième couleur. Non,
voilà, il faut pas. Il faut pas.
Ah oui, c'est vrai, c'est bête. C'est par le début.
Donc par... non, parce qu'en fait, c'est assez inégal. Les scénarios sont assez inégaux. Les différents personnages qui rentrent en scène sont pas tous intéressants. Enfin, sont pas tous aussi intéressants les uns que les autres. Moi, je sais que j'aime beaucoup les sorcières, j'aime beaucoup le gay. Et par exemple, le quatrième, je crois, Pyramide, ça parle de l'initiation d'un voleur, mais ça va pas du tout plus. Donc, faites-vous conseiller un des scénarios. Je vous mettrai sur le site des scénarios. Un des. Pardon, excusez-moi.
Ça marche. Hein.
faites-vous conseiller un tome. Et je vous en mettrai 2-3. C'est de l'humour un peu décalé, bien british. Je suis très très fan et je crois qu'il m'en manque quelques-uns. Donc tout ça m'a donné envie, en attendant Essen et en attendant la sortie de tout ça, de me remettre un petit peu au Disque Monde. On a parlé un petit peu en off, là, il y a 15 jours, des deux magazines papier, l'Istari Mag et Ubik Edge. Et le magazine de Edge, donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On retrouve maintenant dans les boutiques Ondure deux magazines papier, qui sont le magazine d'Istari, et puis le magazine Edge, qui sont des catalogues améliorés.
Ouais. Ça va bien, comme 20 minutes, comme beaucoup d'autres papiers.
Ouais, enfin 20 minutes, ça reprend l'AFP, donc c'est quand même une source d'information fiable.
Où il y a des pubs.
Oui, mais bon, t'as des choses en plus, t'as des cartes en plus, des cartes promotionnelles en plus. Ça reprend agréablement le contexte de l'édition, de l'impôt, petite interview de Keyart, enfin, c'est quelque chose d'agréable à lire. Donc, c'est clairement un support promotionnel, mais qui est plutôt agréable à lire. Un peu plus agréable à lire que le catalogue de Edge, qui est vraiment plus catalogue dans ce cas-là.
D'accord.
Et donc, on a ces deux magazines qui sont trouvés maintenant en boutique, assez largement. Si vous n'avez pas dans votre boutique, cherchez...
C'est qu'ils sont tous partis.
Ailleurs. C'est possible qu'ils soient tous partis. Donc on a parlé dissidents dans le premier numéro, et là on a donc une tendance au papier. Et on voulait vous parler de deux autres magazines qui sont JSP, JSP Mag.
Les jeux sur un plateau.
Jeux sur un plateau. Et Plateau.
Et Ludica, on peut le rajouter. Tiens,
et Ludica. Faire. Alors Ludica...
il est un peu différent, mais...
Voilà, il est entre l'Istari Mag et puis Jeux sur un plateau.
Ouais, pour l'instant, c'est un magazine qui est gratuit, qui est mensuel, je crois. Et qui parle un petit peu de l'actualité du jeu, mais sans articles de fond, juste qui se borne à faire de l'actualité simple du jeu. En gros, c'est pour vous donner envie du prochain nouveauté.
Les news.
Ouais, les news. Okay. C'est bien aussi. Hein.
Oui, c'est bien les news. Puisque nous, on en fait aussi. Donc,
ouais.
C'est bien.
Ça donne envie d'acheter plein de trucs.
Tout à fait. Ah, c'est l'aspect catalogue qui ressort, donc.
Ouais, non, mais c'est... Non. Enfin, comme quand on lit un site internet qui parle de tel dernier gadget technologique et on ne le connaissait pas il y a 5 minutes et maintenant, il faut absolument qu'on l'ait.
Donc, jeu sur un plateau, je confesse l'avoir pas mal feuilleté, mais plutôt dans les toilettes. C'était... Alors, j'avais mis mon regard à soulever les yeux en me disant mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'ai un ami qui était abonné et lorsque j'allais chez lui, j'avoue que je passais un peu plus de temps que nécessaire au petit coin pour pouvoir feuilleter le magazine jeu sur un plateau, que je trouvais agréable. Et donc là, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la qualité de l'impression. C'est-à-dire que c'est un magazine avec une très belle impression, une très belle qualité d'impression d'édition. Et c'est pas donné, c'est 7€, tout comme plateau. Mais j'ai eu l'impression d'en avoir pour mon argent. C'est une très belle présentation. L'objet est joli et est très agréable à prendre en main. C'est la première chose.
Et les lectures ? Enfin, moi, je joue surtout au contenu. Puisque...
Alors, la lecture, ça reste le magazine papier tel que j'ai pu le feuilleter il y a quelques années. Alors, avec des bémols. Alors, c'est le numéro 73 qui est. Sponsorisé par Skulls and Roses. Prenez-le comme vous voulez. Ça parle de l'aventure Skulls and Roses pour les deux premiers tiers. Alors, sans rentrer dans la polémique, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que tu as l'interview d'un auteur. Moi, ça, je connais un petit peu plus. J'en ai parlé dans Dissident en disant que ça me passait un petit peu au-dessus de la tête. Là, en l'occurrence... J'aime beaucoup les loups-garous de Tiercelieu, j'aime bien Philippe Despalières et Hervé Marly. Donc ça m'a pas déplu de lire ça. C'est un retour aussi sur le Festival de Cannes et le jeu de l'année. Donc là je suis toujours hors polémique, ça peut être intéressant. JSP se positionne quant à l'attribution du jeu. Bon, voilà. Et voilà, pour le premier tiers. Et après, c'est plutôt très déjà vu.
Oui, tu as toujours les articles de fond. J'ai feuilleté un petit peu rapidement. Il y a toujours les articles de fond comme il y avait à ses débuts. Numéro 73, il faut quand même souligner, hein, la prouesse. Le magazine était pas mal décrit à sa sortie, hein, je sais pas, ça fait combien, 6 ans au moins, 7 ans peut-être même maintenant. Et il est quand même là encore, après 73 numéros, c'est pas mal. Alors on verra après, ils amorcent un tournant, mais ils en seront encore là. Alors bien sûr, les articles, bon bah ça reparlait d'articles qu'on a pu lire il y a 7 ans.
Le prix du jeu, ça, il décortique un petit peu le prix d'un jeu pour savoir qu'est-ce qui va à l'éditeur, qu'est-ce qui va au transporteur, qu'est-ce qui va au revendeur, qu'est-ce qui va à l'auteur.
Ouais, et puis un dossier en 4 parties sur les dés, a priori, dans les jeux. Enfin, il y avait déjà eu un petit peu tout ça disséqué à l'époque par... Bono fait du tee, etc. Enfin, il sait qu'il y a un tour de jeu, etc. C'est intéressant, hein, quand ça amène une lecture de fond, enfin une vision qu'on n'a nulle part ailleurs sur Internet. Personne ne prend le temps de se poser, de faire ce genre d'article. C'est intéressant. Maintenant, après, au bout d'un moment, effectivement, j'avais lu pendant 2-3 ans, et après, ça avait fait le tour, donc j'avais arrêté. Mais d'autres joueurs, à ce moment-là, découvrent peut-être le magazine, et eux prennent le train en marche, donc sont heureux de redécouvrir ces articles qui reviennent.
Tout à fait. Et puis après, il y a tout un tas de tests de jeux. Là, en l'occurrence, ça a été très décrié. Enfin, moi, je pouvais me fier à certaines personnes et pas à d'autres. C'est-à-dire, je connaissais les testeurs qui me correspondaient. Et j'ai l'impression, alors, c'est qu'une impression sur un numéro, que c'est plutôt plus dans la tendance générale. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près le positionnement général du jeu. C'est-à-dire, s'il plaît pas, s'il est pas très très bon. Donc là, en l'occurrence, ce défaut qu'on pouvait lui donner il y a quelques temps... Et je pense qu'il est un petit peu nivelé, donc il y a pas de... Ça, c'est plutôt une chose positive.
Ouais, parce que le problème d'un mag papier, c'est... on a un avis, effectivement, quand on a... Enfin, je pense que sur les magazines papier, la force d'un magazine comme JSP, c'est justement plus ces articles de fond que les petites critiques qu'il met à droite à gauche.
Mais c'est plus de la moitié du...
Ouais, je sais, malheureusement, c'est la moitié du mag, mais je pense que c'est pas la partie la plus intéressante. Mmh. On a Internet pour se documenter et justement trouver les sites des personnes qui nous plaisent le plus.
Et donc, on vous parlait de tournant il y a quelques secondes. Le tournant qui est en train de prendre juste sur un plateau, c'est sa distribution. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver un petit peu partout, que ce soit dans les boutiques spécialisées en jeux de société. Je pense aussi que vous pouvez le trouver dans les relais, dans toutes les gares et les aéroports. Demain, vous aurez deux solutions. Soit vous vous abonnez, vous le recevez directement chez vous, soit vous allez sur www.jeuxsurunplateau.com et là vous pourrez acheter les numéros un par un. D'ailleurs, vous pouvez précommander le prochain, le numéro 74, qui sera 6 € au lieu de 7. Et puis, c'est la bonne nouvelle en fait de ce virage qui est amorcé, c'est que Jeux sur un plateau a décidé également de se diffuser via iPhone et iPad sur des applications dédiées. Alors, je pense que il y a tout un bins avec Apple sur le prix de l'abonnement, le prix unique du livre en France, sur... Enfin, il y a deux choses qui arrivent en conjonction. C'est que Steve Jobs veut ses 30% quand on passe par l'App Store. Par contre, le prix unique du livre fait que les distributeurs ne peuvent pas distribuer moins cher sur l'App Store. Et donc, il faut qu'ils passent par une application, sinon ça ne marchera pas. Donc, l'application, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un contenu qui sera un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des vidéos, on va pouvoir avoir des explications de règles.
Avec Fajari TV.
Pardon ?
Il y a déjà une TV sur,
voilà.
Sur Jeux sur un plateau, parce qu'en fait, ce jeu sur un plateau, il y a le magazine papier, il y a aussi tout le site. Il y a énormément de choses sur leur site. La boutique, on peut jouer aussi en ligne. Ils ont effectivement pas mal de news aussi. Je crois même qu'actuellement, il y a une interview de Richard Garfield qu'ils ont fait à Cannes.
Tout à fait.
Donc, plein de choses intéressantes qui sont gratuites pour l'instant. Et je pense qu'elles le resteront avec la suite.
C'est une belle initiative de Jeux sur un plateau qui...
Et alors, par contre, t'auras un souci, Olivier. C'est qu'il y a quelques années, tu nous as dit que tu lisais Jeux sur un plateau dans les toilettes de ton ami.
Tout à fait. Mais j'ai toujours mon iPad dans les toilettes.
Ouais, maintenant. Voilà, mais je veux dire, tu pourras pas... chez ton ami, s'il a un iPad, il laissera pas l'iPad dans les toilettes pour que tu puisses lire ton JSP.
Non, mais...
Ça va être délicat.
Ce qui va être bien, c'est que maintenant, je vais pouvoir lire le JSP dans mes toilettes.
Ah ouais, mais...
On va voir maintenant si l'application sera payante et à quel prix.
Ouais, tu demanderas à ton ami de s'acheter un iPad juste pour ses toilettes.
Tout à fait, mon ami ne s'achètera pas d'iPad. Donc je pense que j'aurais pu dire JSP. A noter que vous pouvez suivre JSP Mag sur Twitter, @JSPMag.
Et finalement, ce que vit Jeux sur un plateau maintenant, c'est pas tout à fait à la même échelle, mais c'est un petit peu ce qu'a vécu le magazine Plateau, donc tenu par des Belges, donc le magazine Plateau, PLATO, il y a quelques années. En fait, ils avaient commencé par une version papier payante, et puis, ils ont eu, je crois, les mêmes soucis de coûts de distribution qui les a un peu plombés. Donc ils ont décidé de basculer en version uniquement PDF, en version seulement électronique gratuite, par contre, pendant quelques mois. Et puis, sous les demandes répétées des fans, on va dire, ils ont finalement accepté de revenir à une version papier.
Et je crois qu'on trouve encore... pas tout le temps peut-être, mais tu peux télécharger des numéros au format électronique de plateau.
Ouais. Alors, je vais venir. En fait, donc, du coup, tu m'as coupé. Alors,
non, je t'ai pas
coupé. Je sais plus où j'en suis. Donc, sous les fans, en fait, sous les appels répétés des fans, ils ont essayé de trouver un moyen de revenir au format papier quand même. Et finalement, ce qu'ils ont réussi à trouver, c'est de faire un numéro sur deux papier payant et un numéro sur deux numérique gratuit. Donc, les numéros, les mois pairs, c'est la version papier, donc 64 pages. Je sais pas le prix, ça doit être 7 € aussi.
C'est ça.
Et les mois impairs, il sort en version électronique. Dans ces cas-là, la version, c'est 1.5. Donc, par exemple, si on est en avril, donc c'est le mois papier. Okay. Donc, admettons, c'est le numéro 37, ça doit être le 37. Le mois prochain, ce sera donc le 37.5. Voilà. Alors après, par contre, en termes de contenu,
Excuse-moi. À noter que vous pouvez vous abonner à leur newsletter. Vous recevrez dans votre boîte un email vous annonçant la sortie du point 5. Ah oui. Ça vous permettra d'aller les télécharger automatiquement.
Je reçois ces mails effectivement tous les mois, mais je ne les regarde pas. Et donc, en fait, donc, Plateau, je l'ai lu à la même époque que JSP.
Dans les toilettes de mon pote ?
En format papier. Non, moi j'avais les miens. Mais j'ai arrêté à peu près à la même époque. Plateau, ce qu'on disait à l'époque, et ce qui doit toujours être vrai, c'était plus grand public par rapport à JSP. Au niveau des critiques, au niveau des choix, etc. C'était un autre style. Donc, ce qui fait que les deux magazines, finalement, ne se faisaient pas forcément concurrence. Et là, quand je feuillette 1.5, donc encore une version gratuite électronique, donc qui est plus petite en page, C'est effectivement, enfin, ça, je retrouve le plateau de l'époque, à savoir beaucoup, beaucoup de tests.
Ouais, ce qui est beaucoup. Enfin, c'est donc quelque chose de très classique en fin de compte. On ne doit pas être la cible en fait de ce genre de magazine papier. Parce que d'abord, on est branché sur Internet 24-24. Et puis, on va peut-être un peu au-delà de ce qu'on peut chercher d'un magazine où on a des tests de jeu. C'est-à-dire, je reviens sur Trek Track. C'est déjà une bonne base pour savoir avoir une tendance. Board Game Geek, idem. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je vais sur Board Game Geek, quand je vois la note d'un jeu, je sais si c'est un bon jeu ou pas. Ou alors, enfin, je sais plutôt si c'est un mauvais jeu ou pas. Après, est-ce que ça va me plaire? C'est une autre chose. Ça peut être un bon jeu et pas me plaire. Mais au moins, ça m'a dit quels sont les jeux qu'il faut absolument éviter. Ou qu'ils sont trop ressemblants, qu'ils n'ont pas assez d'intérêt, que ça m'intéresse moins.
C'est marrant, moi j'ai plutôt tendance à suivre les quelques sites ludiques qui me plaisent vraiment.
Alors voilà, c'est ça. J'en parlais un petit peu dans JSP. C'est soit tu te fies à une note globale, la foule qui va dire, il y a 500 notes qui donnent 6 ou 6,5 sur Board Game Geek, qui va dire, bon, c'est pas forcément un excellent jeu, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un excellent jeu. Ou alors tu vas avoir tes référents ludiques. Tu veux dire, moi j'ai le même goût que celui-là ou celui-ci. Et quand quelqu'un va te dire, moi j'aime ce jeu, bah, tu vas dire, ah oui, moi j'ai le même goût que toi, donc je vais certainement aimer le jeu aussi.
Voilà, c'est ça. Parce que bon, juste les notes, moi je trouve que ça me permet pas de jauger un jeu. J'aime bien savoir les points positifs et les points négatifs.
Non, mais là c'est juste,
La tendance, ouais.
voilà, c'est une tendance. Après, il faut creuser. Donc après, l'avis des gens est important. Et donc la semaine dernière, le 18 avril pour être très précis, est sorti le jeu de cartes évolutif du Seigneur des Anneaux. D'abord, il faut saluer Edge et comment c'est le
Fantasy Flight.
Fantasy Flight, qui ont réussi une sortie mondiale à un temps donné, une date donnée.
Oui, d'habitude, hein, on attend plusieurs mois après la version anglaise.
Et là, on a eu la version française tout de suite, c'est super. Donc, Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif. C'est la boîte de base. Et donc, je vais commencer par te demander ton avis.
Alors, rapidement, j'ai fait qu'une partie avec le scénario d'introduction.
Oui, ça va être. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est des avis à chaud. On n'a pas énormément de parties. Donc, Jérémy en a fait une, moi j'en ai fait trois. Pas assez de recul, mais au moins, ça peut vous donner un peu envie ou pas de jouer à ce jeu.
Alors, donc une seule partie, oui, effectivement, je pense que j'aurais besoin de 5 parties au moins pour me donner un vrai avis. On en a déjà parlé un petit peu dans les numéros précédents, juste un petit rappel, le principe du jeu, c'est un jeu coopératif. Les joueurs peuvent construire leur deck avec des cartes qui sont fixes, enfin qui sont fixées dans la boîte de jeu, et c'est pas comme un Magic. Donc dans
Oui.
un jeu, on a forcément les mêmes cartes.
Oui, c'est-à-dire que la Magic, vous allez avoir des pochettes avec un tirage aléatoire des cartes. Ici, vous avez toutes les cartes qui existent. Alors, a priori, pour la plus grande partie, en 3 exemplaires, quelques-unes en 2 exemplaires, parfois des cartes uniques. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais
Au moins les héros sont uniques, quoi.
voilà. Et vous avez la majorité des cartes qui sont en plusieurs exemplaires. Ça vous permet d'avoir toutes les cartes.
Voilà, donc déjà, c'est coopératif. Donc pourquoi pas. Enfin, ça change, c'est bien. En jeu de cartes comme ça, c'est.
Alors toi tu dis pourquoi pas, moi je dis que c'est pour ça que je l'ai acheté.
Ah, carrément. D'accord.
Oui tout à fait, j'ai pas acheté la version ni la version Trône de Fer qui m'a beaucoup attiré, parce que j'aime beaucoup l'univers du Trône de Fer, on vous en parlera dans un autre épisode. Et puis bah, Cthulhu, je suis tombé dans Horreur Arkham, je suis pas un grand fan et je fais quelques parties, j'ai pas besoin, pas envie de rentrer
L'univers,
dans cet
ouais.
univers par le biais du
Mais
jeu de cartes à
je crois
collection.
justement, contrairement
Ou
à.
évolutif.
J'ai pas vérifié, mais par rapport à Trône de Fer et Cthulhu, je crois que Trône de Fer et Cthulhu, c'est une adaptation du jeu de cartes à collectionner qui existait, qui sont transformés en version évolutive. Alors que là, c'est un tout nouveau système de règles, c'est pas l'adaptation d'un ancien Seigneur des Anneaux, c'est nouveau.
Alors moi, le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes à collectionner que je connaissais, le un joueur faisait à la fois la quête et les obstacles. C'est-à-dire que dans ton paquet, tu préparais les obstacles que tu allais jouer sur ton adversaire, et puis tu préparais une compagnie avec tout ce qu'il fallait pour finir une quête. Et d'ailleurs, tu sais, c'est toi aussi qui te fixais les quêtes. Ici, dans le jeu de cartes évolutif, donc il y a trois scénarios, on va dire. Un qui est un scénario d'apprentissage. Le premier, c'est clairement pour apprendre les règles, qui est de niveau 1. Un deuxième qui est un petit peu plus compliqué, puis un troisième qui est a priori ardu. Alors, en l'état, puisque en l'état, le jeu est quand même... comment dire, peut-être amputé de ça. C'est un jeu qui commence, donc on voit clairement qu'il va y avoir d'autres cartes et qu'il manque quelque chose.
En fait. Oui.
Ça, voilà. C'est peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que clairement, il est.
Vivement les premières extensions, parce qu'on est limité, je trouve. Pour construire un deck, j'ai fait qu'une partie, mais j'ai regardé les cartes, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas construire tant de decks que ça, tant de stratégies possibles, viables que ça.
Voilà, donc il est complet, c'est-à-dire qu'on peut y jouer dès le début. Sauf que déjà il faut 50 cartes par paquet. Et pour mettre 50 cartes, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a 4 éléments, 4 sphères, 4 façons de jouer. Et si on veut, on ne peut pas avoir 50 cartes dans un des éléments. On ne peut pas faire de monosphère. On est obligé soit d'avoir moins de 50 cartes en monosphère, ou alors se faire un bisphère.
Ouais, c'est pas terrible. En fait, étant joueur Magic, il y a des cartes quand on les lit. Alors j'ai pas assez joué, mais. Je me dis déjà, cette carte-là, je la mettrai jamais. Et du coup, quand j'élimine toutes les cartes que je mettrai jamais, j'ai déjà plus grand-chose pour faire un deck et encore moins pour penser une stratégie. Mais j'ai qu'une partie, j'ai pas assez pratiqué, surtout que j'ai fait que le scénario d'initiation. Donc c'est encore un peu difficile, je pense qu'il faut... Peut-être qu'il y a des cartes, je me dis, non, faut pas les mettre. En fait, je me rendrai compte que si, elles sont vraiment vitales pour la survie d'un deck.
C'est ça. Et donc, en l'état, on peut jouer tout seul ou on peut jouer à deux. J'ai fait une première partie avec une sphère où j'ai c'était une partie de plaisir, enfin une balade de santé. Mais ça m'a permis d'apprendre les règles, puis de savoir un petit peu comment ça se passait. Et puis je suis passé directement au deuxième scénario en duo. Et là, ça a été complètement différent.
C'est-à-dire ouais, mais t'as fait la difficulté supérieure.
Oui, tout à fait. Ben, étant donné que je m'étais baladé sur le scénario 1, je me suis dit... On va mettre un petit peu plus de piquant. Et puis, on s'est fait laminer, puisque en fait, l'idée, c'est qu'on a 3 cartes par scénario, qu'à chaque carte correspond à un tiers de la quête. Et là, on a passé la première carte, difficilement la deuxième, c'était impossible. Donc,
c'était dû au tirage ou... Parce qu'il y a quand même, on va quand même repréciser rapidement pour les auditeurs, que le jeu, en fait, à chaque tour de jeu, arrive des nouvelles cartes. Qui font un total de, on va dire, d'ombre, une valeur d'ombre. Il faut qu'on ait mis aussi assez de personnages pour contrebalancer en lumière, sans forcément savoir ce qui arrive.
Oui, et les personnages, c'est-à-dire qu'on a plein de choses à faire. C'est-à-dire soit avancer sur la quête, c'est ce dont Jérémy est en train de parler, soit combattre les obstacles qui vont nous empêcher de faire la quête.
Ouais.
Et en l'occurrence, c'est un équilibre à trouver. Il y a certaines sphères, un mode de jeu. Certains types de cartes qui sont plus orientées soins, d'autres qui sont plus orientées pour faire baisser la menace, d'autres qui sont plus orientées attaque. Et là, en l'occurrence, on sent bien que c'est un jeu qui doit... On sent bien que c'est fait pour nous faire acheter des extensions.
Eh, ils sont pas là pour rien, surtout eux.
Et que, en fait, c'est un apéritif. C'est ça, en fait.
Ouais, non, mais c'est bien. Enfin, il est dans mes bagages pour mes vacances prochaines. L'avantage, c'est que des cartes, ça prend pas beaucoup de place dans les bagages.
Oui, on a une boîte carrée standard, et en fin de compte, ça prend un 9e de la place.
Il y a 260 cartes, quelque chose comme ça. Mais c'est bien, on pourra mettre les extensions dedans.
Non, par contre, la bonne nouvelle, c'est que on n'est pas dans la quête de l'anneau. Ça se passe avant, ça se passe entre la disparition de Bilbo.
Entre son anniversaire, ouais.
À son anniversaire, quand il disparaît. Et puis son retour à la comté.
Et puis Frodo. Enfin oui, quand Frodo va partir.
Tout à fait. Et on va retrouver les mêmes personnages qu'on connaît déjà. On va retrouver Legolas, on va retrouver Aragorn, on va retrouver Gloin,
Gandalf.
Et bien sûr Gandalf. Parce que Gandalf, en fait, c'est une sorte de joker, c'est une carte
toute puissante.
Tout à fait.
Et qui sert qu'une fois.
J'ai beaucoup aimé parce que on se raconte vraiment une histoire. On est vraiment dans l'aventure. C'est-à-dire que chaque carte a un petit
texte d'ambiance.
Texte d'ambiance. Que ce soit au niveau de la quête, que de la carte action ou personnage. Donc si on prend le temps de la lire, on est vraiment dans l'histoire. Les trois scénarios, alors le troisième je ne l'ai pas en tête, je l'ai lu mais j'ai oublié. Par contre le premier, on est dans la vieille forêt, on est entouré d'araignées, on a vraiment cette traversée de la forêt. Et puis le deuxième scénario, c'est un voyage sur le lendemain. On est vraiment dedans, c'est vraiment super sympa de retrouver un petit peu les personnages qu'on connaît, Legolas avec son arc, mais Legolas brun. C'est très drôle, parce que on s'est fait avec... pas toi visiblement, mais certaines personnes se sont fait avoir un Legolas blond.
Oui, dans le livre il est brun.
Voilà, tout à fait.
Mais c'est pareil, les elfes dans le livre ils ont pas les oreilles pointues.
Non, ça c'est Monsieur Spock.
Ouais, mais Tolkien a toujours dit que les elfes n'avaient pas les oreilles pointues, mais ça empêche pas toutes les adaptations de tout le temps leur mettre les oreilles pointues. Ouais. Bon, après on va croire que je suis super fan et machin, mais non, c'est pas vrai.
Non, par contre, Jérémy, tu me disais que tu parlais de ton épouse. Est-ce qu'elle a accroché ?
Elle n'est pas très jeu de cartes. Et elle a moyennement accroché. Pourtant, je pensais que le fait que ce soit coopératif, que le thème soit le Seigneur des Anneaux, ça marche mieux. Mais c'était pas ça. Alors, je sais pas. Comme toujours, il faut se former aux règles, mais les règles sont quand même pas très complexes.
Non, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que c'est très, très technique.
C'est technique, ouais, c'est ça. C'est assez mécanique, hein, les règles. Moi, tu disais, toi, que tu vivais l'aventure. Tu as l'impression que tu es dans l'aventure. Moi, j'ai quand même... Bon, peut-être que c'est la première partie aussi, mais je trouve qu'on... Enfin, moi, j'ai pas vécu l'aventure.
C'est, hein, le déroulement des règles ou...
Non, enfin, c'est plus du calculatoire. On se dit, bon, tel ennemi, est-ce qu'il faut que j'engage ? Est-ce que j'attends qu'il vienne ? Est-ce que... Ouais, etc. Il faut calculer un petit peu ses chances. Enfin, c'est...
Je te rappelle que je me suis fait laminer ?
Ouais, mais ça, c'est... Ah, bon, on jouera ensemble. Et puis, on les latera.
Non, mais c'est vrai que pour gagner, il faut jouer correctement. Donc il faut sortir les bonnes cartes au bon moment, il ne faut pas les oublier, il faut y aller correctement.
Un peu de pratique.
Et c'est vrai qu'on peut se distancier un petit peu de l'univers. Par contre, le thème existe, c'est un thème fort. Et voilà. Et par contre, moi personnellement, je ne pourrais pas jouer avec mon épouse. J'y ai pensé au début, mais je suis persuadé que c'est trop complexe. Pas forcément au niveau des règles, parce que ça s'enchaîne bien et au bout d'un moment tu les oublies. C'est au niveau justement du choix des personnages, du choix des cartes. Et puis c'est cornélien, c'est-à-dire est-ce que j'y vais sur la quête ? Si je n'avance pas dans la quête, je prends des menaces. Si je prends des menaces, au bout de 50 points de menace, j'ai perdu. Et en fin de compte, il faut tout faire. Il faut avancer sur la quête, il faut supprimer des ennemis.
Ça s'appelle le stress dans le jeu.
Tout à fait.
Mais
c'est la difficulté aussi, c'est d'arriver à...
Ouais, mais c'est pour ça que je me disais qu'il était jouable parce qu'il était coopératif avec mon épouse.
Tout à fait. Donc, est-ce que tu le conseilles ?
Bah, j'ai fait qu'une partie difficile. Est-ce que je veux bien revenir dessus dans quelques tests. C'est pas mal. Les règles sont...
Assez
complexes.
Voilà, c'est ça. Il y a 24 pages. Ça fait peur au début, et puis quand on commence à les lire, il y a de toute façon sur deux pages, il y a une page d'exemple. Donc en fin de compte, moi ça m'a.
Non, alors, puis.
Je vais donner mon avis.
Vas-y, alors je t'en prie.
J'ai hâte. Si vous n'avez pas envie de passer trop d'argent dedans, passez votre chemin. Ça peut se jouer comme ça, mais pour vraiment en retirer la substantifique moelle, il va falloir quand même mettre un peu la main à la poche, parce que de toute façon, vous ne passerez jamais le deuxième scénario. Si vous n'avez pas envie de faire de la construction de deck, passez votre chemin, parce que c'est pareil. Le monodeck, bah, c'est bien sympa, mais vous aurez des decks qui ne marcheront jamais en monocolore. Et par contre, si vous n'avez pas peur d'un peu d'investissement en temps et en argent, allez-y. Enfin, si vous aimez le Seigneur des Anneaux et la Terre du Milieu, allez-y. Enfin, moi, je suis absolument pas... je ne regrette pas mon investissement. J'espère... je vais arriver à me mettre au niveau de la difficulté des scénarios, parce que
tu vas y arriver.
Je trouve ça difficile, et le deuxième scénario m'a paru tout à fait insurmontable. Donc c'est ça aussi un petit peu le sel du jeu, ça va être de trouver à pouvoir y arriver. Et donc pour moi, j'ai hâte de donner mon argent à Edge.
Eux aussi ils ont hâte de recevoir ton argent. De mon côté, le niveau des règles est simple. Alors, moi, avant, j'avais regardé les vidéos de Edge. Ils ont fait un petit teasing, là, tous les jours, ils en mettaient en ligne, donc vous pouvez les trouver sur YouTube. Il suffit de taper Seigneur des Anneaux JCE.
Mais...
C'est en 5 numéros.
Le premier n'est-il pas sur notre blog, Jérémy?
Si, on a dû mettre le premier, mais des fois, c'est surtout les 4 et 5 en fait, qui expliquent vraiment les règles en 16 minutes. On a une bonne vision des règles. Ensuite, j'ai relu les règles rapidement avant la partie. Et même au cours de la partie, on s'est posé 2-3 questions et on a trouvé très rapidement la réponse. Contrairement à d'autres jeux comme Thunderstone, qui est, je trouve, une abomination pour trouver, pour retrouver les éléments, les questions qu'on se pose sur les règles. Là, non, c'est très bien écrit, c'est bien fait, c'est bien structuré. On s'y retrouve pas mal. Donc voilà. Ensuite, sur la construction, effectivement, je pense que le jeu gagnera forcément à ce qu'on ait des extensions. Mis tout seul, on peut pas. Par contre, quelque chose qui m'a choqué, c'est un jeu coopératif, mais il prévoit de faire des tournois. Alors, je sais pas comment. Je pense qu'en fait, il y a un système de score qui existe, évidemment.
Oui, tout à fait.
Mais, bon, c'est à voir.
Non, c'est un prétexte. Je pense que c'est un prétexte. Et par contre, l'aspect coopératif, ouais, mais au moins, a très bien marché.
Ouais, mais ils vont faire des tournois. Alors, je sais pas quel sera le niveau. Évidemment, on sera pas du tournoi de haute compétition, etc. Ce sera peut-être... je sais pas comment ils vont tourner ça. Ça m'a étonné, mais pourquoi pas. C'est un moyen pour eux de faire tourner la machine aussi.
À voir. Voilà, le Seigneur des Anneaux, on l'a attendu, et en fin de compte, il nous a plu. Et donc, Jérémy, on n'a pas fait vraiment de rubrique événement cette semaine. Je vais te parler d'une association qui s'appelle Mulcu Association. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Mulcu?
Oh oui, très bien.
Alors, c'est toi qui vas nous expliquer, alors.
Alors, c'est un jeu de quilles finlandais qui pourrait se rapprocher de notre pétanque. Enfin, sauf que le but du jeu n'est pas le même, mais... Donc,
excuse-moi, le but du jeu est le même. C'est passer un bon moment entre amis.
Ah, bah, comme tous les jeux, alors.
Ouais, sauf que là c'est un jeu de plein air où
voilà, c'est ça, qui on peut jouer avec tout le monde.
Voilà, il fait beau, il fait chaud, les gréas sont en train de cuire et voilà. on se lance un petit Mulcu.
Voilà. Donc le Mulcu, déjà, je le tiens de toi, grâce à ta fabrication des Mulcu il y a quelques années. J'en ai initié pas mal de monde avec ça. Alors donc le Mulcu, le but du jeu.
Excuse-moi, puisque tu lâches le morceau.
Ouais.
Il y a quelques années, fait fabriquer 250 Mulcu. Que j'ai, avec mes petites mains, assemblé dans mon garage, dans ma cave, que j'ai vendu, et ça m'a fait bien plaisir. Malheureusement, c'était pas très très rentable financièrement, mais c'était une très belle expérience. Donc ça, c'est fin de la parenthèse. Alors, si vous souvenez de Exua, c'est moi. Ou c'était moi. Voilà.
Bien, alors on va expliquer les règles du Mulcu. Donc, ça se joue à plusieurs équipes, au moins deux. On peut jouer à plusieurs, en plus, de toute façon, il n'y a pas de...
Au moins deux équipes, au moins deux joueurs. Équipes.
On place 12 quilles numérotées, de 1 à 12. Ensuite, on se place à une distance de 5 mètres. Je sais plus la règle.
À peu près comme la pétanque. Hein,
comme la pétanque. Et on va tirer donc avec... donc, il faut imaginer, c'est des petits rondins de bois qui font quoi? Un diamètre de
5 cm.
5 cm, ouais.
De 10 de haut.
Ouais, pour être 10 de haut. Et on va tirer avec un rondin de bois à peu près pareil.
Un petit peu plus long.
Un peu plus long, ouais. Et le but étant de dégommer les quilles en face. Il y a deux façons de compter les points. Si on a renversé une seule quille, on marque autant de points que le score indiqué sur la quille renversée. Donc par exemple, si je renverse la quille numéro 10, je marque 10 points. Si par contre, je renverse plusieurs quilles, dans ces cas-là, je marque autant de points que j'ai renversé de quilles. Donc si j'ai renversé 3 quilles, je marque seulement 3 points. Le but du jeu, c'est d'atteindre 50 points pile. Si par malheur j'ai 48 points et je renverse par exemple 3 quilles, ça me fait marquer 51, j'ai dépassé, donc je retombe à 25.
C'est tout le sel du jeu, c'est qu'il faut arriver à 50 piles.
Donc au début on peut shooter n'importe où. Ah et puis il y a autre chose quand même qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va tirer, les quilles vont se déplacer et chaque fois on redresse la quille là où elle a été, là où elle est. Donc au cours de la partie, surtout quand on joue absolument pas à un niveau sportif de haut niveau, mais justement juste en famille pour s'occuper le dimanche, le jeu a tendance à devenir assez chaotique et les quilles s'écartent rapidement et sont un petit peu éparpillées n'importe où. Le truc, c'est que j'ai joué dans ma pelouse ou bien sur un terrain terre battue type terrain de pétanque. Là où c'est le plus drôle, c'est quand même sur terrain de pétanque parce que le lanceur a tendance à rouler et pouvoir aller frapper. Il avance de manière un peu... chaotique, il peut aller renverser des quilles qu'on ne visait absolument pas et juste parce qu'on a mal visé et qu'il a roulé et qu'il a réussi à en taper une qui était tout au fond du terrain. Donc c'est ce qui fait le côté très, très sympathique et familial, puisque du coup tout le monde se chambre agréablement.
Et contrairement à la pétanque, où vous avez des spécialistes du tirage ou du pointage, l'idée c'est que tu peux lancer ton lanceur, et puis tu as de grandes chances de dégommer au moins une quille.
Donc, faut jouer avec moi.
D'accord. Alors il faut savoir qu'au bout de trois manqués, c'est une élimination. Mais bon, c'est plus simple d'accès et ça permet de... C'est plus grand public. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même... Enfin, je le répète, hein, si tu n'es pas un spécialiste du meulcu, tu peux quand même t'amuser. Alors que j'ai des souvenirs de pétanque où toi tu lances à côté, t'as aucune chance parce que les autres jouent bien. Et t'es complètement hors du jeu.
Oui, au Molcu, tu peux toujours jouer. Hein. Tant pis si t'es largué au score. Tu peux. Ceci dit, hein, des fois, j'ai vu des équipes qui sont larguées au score, qui en marquent petit à petit, mais qui remontent parce que les autres n'arrivent pas à atteindre les 50 piles et retombent plusieurs fois à 25. C'est ça.
Et donc, pourquoi on vous parle de Molcu? C'est parce qu'il commence à faire beau, très beau même, et qu'il y a une association en Ille-et-Vilaine qui s'appelle Molcu Association, qui fait la promotion du Molcu depuis plusieurs années. Alors, c'est un des dossiers que vous aurez certainement dans Proxy Jeu quand on aura réglé quelques problèmes techniques. Parce que c'est le premier dossier que j'ai fait à distance et c'est pas si évident que ça. Enfin, premier enregistrement que j'essaie de faire à distance. Donc, Molcu Association fait la promotion depuis plusieurs années du Molcu. Vous pouvez aller sur leur site, toujours pareil, vous allez sur notre site d'abord, vous trouverez leur URL pointant vers eux. Vous pouvez acheter d'abord un Molcu, même si on en trouve maintenant un peu partout.
Ouais, c'est ça qui est fort, c'est qu'avec le temps, il y en a de partout. Tactique, éditeur, je sais plus, belge, hollandais.
Néerlandais peut-être.
Ouais, je sais plus. En tout cas, Tactique, là, c'est un logo, un losange rouge, et c'est écrit en blanc dessus. On a produit, a priori, en masse. Alors, par contre, Tactique, c'est pas super bien distribué en France. N'empêche qu'il y a une volonté, enfin, le Molcu s'est démocratisé et débarque partout maintenant. C'est en route. On en trouve plein d'autres versions hein, sur... Sur les boutiques en ligne au moins. Les boutiques.
D'autres versions. Le Molcu de salon?
Non. J'aimerais bien. En petit projet sur la table de salon. Non, c'est. Non, mais je veux dire d'autres Molcu que. D'autres versions que celle de Tactique. Il y a plusieurs versions du Molcu, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de jeu déposé là-dessus. N'importe qui peut fabriquer le sien.
À ce propos, la promotion du Molcu a été faite par une petite entreprise de réinsertion. Qui faisait en fait travailler des handicapés ou des jeunes travailleurs qui devaient travailler. À faire des Molcu, enfin entre autres. C'est ça, cette petite histoire. Donc, non, moi, quand je les ai contactés pour leur dire que je faisais des Molcu, ils étaient ravis. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc, pour revenir à Molcu Association, ils font aussi pas mal de choses, plutôt en Ille-et-Vilaine. Je vous renverrai vers. Alors, ils ont une page Facebook, ils ont un site. Ils font jusqu'au mois de juin trois événements en fin mai, le 28 mai, puis le 18 juin, le 25-28 juin. Alors si vous êtes breton, ça vous intéressera sans doute, donc allez-y. Mais c'est surtout ce que je voulais dire, c'est que le 3 et le 4 septembre, à Passé, dans le 35, ils vont organiser un open de Molcu. Alors ce qui est sympa, c'est que l'affiche a été dessinée par Marie Cardois, que les gens qui sont un petit peu fans de société, de Dixit notamment, connaissent très bien. Et donc revenons à l'Open de Molcu, ils ont fait ça l'année dernière, ils ont eu beaucoup de monde, là ils attendent je crois 100, entre 100 et 200 équipes, c'est monstrueux, ils vont faire ça sur deux jours, l'année dernière c'était une seule journée.
Ils ont un sacré terrain parce que ça fait des rencontres.
Ouais, et puis c'est une sacrée organisation aussi. Donc ils cherchent des sponsors, si vous voulez aider Molcu Association, n'hésitez pas, vous êtes sur leur site, vous aurez tout sur le nôtre. Voilà, et le Molcu, c'est un très bon sport. C'est un sport.
Ouais, c'est un sport.
Comme la pétanque. C'est un sport comme la pétanque.
Ouais.
C'est vraiment très très sympa. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un Molcu chez lui, n'hésitez pas à lui demander de vous faire essayer.
Et dans la série des jeux de quilles vikings, il existe un autre jeu qui est le cube. On pourra en parler une autre fois. Qui est encore moins connu, évidemment, par nos contrées.
Alors, je sais pas si j'ai très envie de parler du cube parce que ça me paraît. Enfin, moi, ça m'a toujours paru très très compliqué en fait.
Non, c'est pas plus compliqué. C'est un mélange du Molcu et du ballon prisonnier, on va dire. Mm-hmm. C'est très sympa aussi.
J'en ai un à la maison.
Eh ben, écoute, moi aussi. Bon, je vous raconte.
36-15, je raconte ma vie.
Voilà.
Voilà, donc si vous voulez, alors en fait, si vous voulez jouer au cube ou au meule cul, bah, vous nous faites un mail, et puis si vous êtes en région lyonnaise, il n'y a pas de problème, on s'organisera ça. Et puis d'ailleurs, si vous êtes Paris, sur Paris, c'est pas un problème non plus.
Vous amenez les saucisses, je fournis le barbecue et le meule cul.
Voilà. Et puisqu'on est lundi, on va faire un petit Follow Monday rapide. Je vous conseille de suivre aujourd'hui Dévoreur, L2MJ, Fendoel et Toerdas. Et puis aujourd'hui, on va quand même vous parler un petit peu de jeux sur iPhone, iPad, donc deux news. Donc la première, c'est que Time's Up pour iPhone, qui normalement devrait se jouer sur iPad, mais qui sera peut-être pas une version universelle, devrait être lancé le 1er mai, dimanche prochain. Oui, dimanche prochain.
Au moins sur, en anglais, on sait pas pour la version française.
Je sais pas. Et puis Ghost Stories, alors là, c'est pour iPad et en français, dans deux semaines, donc très très bientôt. Donc quand vous écouterez ce podcast, en fait, ça sera une semaine plus tard. Et puis la version, ce qui est rigolo, c'est que c'est la version anglaise qui va arriver deux mois après, en fait. Voilà. Et puis, ça doit être sorti fin de semaine dernière, peut-être jeudi ou vendredi. C'est Tikal. Donc le jeu est un jeu universel auquel je joue sur iPad. Tikal est le portage sur e-device du jeu de société sorti chez Ravensburger en 1999. Il fait partie d'une trilogie.
Il a gagné un Spiel.
Il a gagné un Spiel. Et il fait partie de la trilogie des masques de Michael Kiesling et Wolfgang Grammer. Donc Tikal, Java, qui est paru l'année suivante, en 2000, et Mexica, qui est paru en 2002. Donc ce sont tous des jeux formaté allemand, donc pour 2 à 4 joueurs, et qui se jouent en moins de 2 heures, 1 heure et demie à peu près, et qui ont pour point commun d'être des jeux avec un certain nombre d'actions réalisées, de points d'action pour réaliser ces actions, et puis des jeux de majorité, de placement dessus des majorités. Et puis à noter que l'année dernière est sorti Tikal 2, qui est un petit peu un séquel de Tikal. Là, Tikal se passe dans la jungle, et en dehors des temples, enfin, les aventuriers vont découvrir des temples et des trésors. Et là, ça se passe à l'intérieur des temples. Tikal, c'est quand même le plus abordable des trois jeux que j'ai cités précédemment. Donc, Tikal a été porté sur iPad par Sage Board Games. La prise en main est plutôt facile. On a le choix de jouer entre soit en ligne, soit en local. Donc lorsqu'on lance une partie, on a le choix du nombre de joueurs. On peut jouer à 2, 3, 4 joueurs. On a le choix aussi de mettre le nombre de d'IA qu'on veut. Donc on peut en mettre 2, 3, 4, ça n'a aucun intérêt. Donc lorsqu'on a sélectionné le nombre de joueurs, le nombre de joueurs pris en main par l'ordinateur et son niveau, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, on a 10 points d'action. Les actions qu'on peut faire, c'est mettre en jeu des archéologues. Donc, soit des archéologues normaux, on a aussi un leader, entre guillemets, qui représente 3 archéologues. On a des petites camionnettes et une petite Jeep pour le leader. Et puis, donc au début de son tour, on va placer une tuile, faire ses 10 actions, et la main va passer. On va pouvoir également, donc le but c'est de contrôler des temples et puis de ramasser des trésors. Lorsqu'on contrôle des temples, on va pouvoir augmenter sa valeur. Et puis aussi on va pouvoir le prendre pour soi complètement. Donc ça, quand on le prend, on le garde, ça nous coûte 5 points d'action, comme de mettre en jeu une base qui nous permet de partir. Le jeu débute sur un coin du plateau. Ça va pouvoir nous permettre de nous recentrer sur le plateau. C'est assez joli. C'est très fonctionnel, sauf que... Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai des gros doigts ou quoi. Mais parfois, on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que il faut sélectionner la petite voiture pour lui dire... D'abord, je la sélectionne et puis je la déplace. Après, quand on a des trésors, il faut. Des fois, on sélectionne la voiture, des fois le trésor, c'est pas super bien. Ça marche bien, sauf que j'ai eu du mal à prendre un petit peu l'interface en main. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière, faire un undo. Alors, je dis undo parce que c'est complètement en anglais. Ça, c'est le point négatif du truc, c'est que l'interface n'a pas été francisée. Par contre, on voit très bien les tuiles, on a la possibilité de zoomer ou dézoomer. Et en fin de compte, Tikal est un bon jeu. Ça m'a permis d'y rejouer parce que ça fait très longtemps que j'y avais pas joué. C'est un jeu des années 2000. Et je prends plaisir en fait à refaire des parties. Et justement, on parlait de jeux pour enfants. Mon grand, on a fait une partie cet après-midi, ça s'est très très bien passé. Donc lui, il est pas très agressif. J'ai le dessus sur lui, mais il a compris la mécanique, il a su faire des choses et ça s'est bien passé. Donc, dans l'ensemble, c'est pas forcément le meilleur jeu de société que j'aurais porté moi sur iPad, parce que c'est quand même un bon gros jeu à l'allemande où il faut bien réfléchir, compter le nombre d'actions qu'on va utiliser, anticiper. On se cherche beaucoup.
Mais quand tu joues contre les IA, elles sont rapides à
Ah
réfléchir.
oui, elles sont rapides.
Parce que c'est le problème, c'est l'intérêt. Alors, on peut jouer contre 3 IA, parce que quand on joue contre des humains, c'est super long.
Ça, ça vient de replanter. Alors ça, c'est l'autre point. Alors je sais pas si c'est mon iPad ou quoi, mais j'ai des déconnexions souvent. Alors je pense que ça sera réglé avec la prochaine mise à jour ou une prochaine mise à jour, mais là c'est un peu stressant.
Il se rappelle pas de ta partie?
Si 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 si.
Ah bon?
Mais bon, ça veut dire que tu vas rentrer dedans, tu vas rechoisir une partie. Est-ce que vous voulez
Ah oui.
continuer votre partie? Là, il te le propose.
Et il se rappelle pas ce que tu avais fait, c'était pas fini son tour en
Non,
plus.
c'est le début de ton tour en fait qui va reprendre. Et bon voilà, c'est un beau portage, mais c'est encore perfectible. Il y a plein de choses à remettre en place, je pense. D'abord le francisé. Ensuite, peut-être au niveau, je sais pas comment ça se passe, mais l'hexagone fait, je sais pas, 4-5 cm de large. Et des fois, tu as des trésors, des fois, tu as des
Ouais.
camions, tu as beaucoup de choses dedans. Et ça répond pas comme ça devrait répondre, en fait.
Alors que sur un bon jeu plateau papier et bois, on se trompe jamais de petits points à prendre.
C'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc Tikal, 4 € sur l'App Store. C'est toujours la même chose, 4 €, ça va. C'est un bon jeu et je trouve que c'est assez
C'est le
raisonnable
seuil,
pour
ouais.
un jeu comme ça. C'est bien fait, c'est-à-dire que l'interface, même si je dis qu'elle est perfectible, elle est quand même claire et il n'y a pas de souci majeur, ça fonctionne. Donc pour moi, c'est plutôt positif. C'est pas encore au niveau de Carcassonne ou Small World. Mais Small World, il faut quand même qu'il nous sorte un jour peut-être une version multijoueur et pas, même si deux c'est déjà multijoueur, c'est quand même pas suffisant. Voilà, c'était Tikal sur iPad. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Alors, toujours la même chose, on aime bien les retours que vous nous faites. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur le blog. On a eu un mot sur INSMV. Quelqu'un dont j'ai oublié le nom nous disait que...
Ah, c'est un Jocelyn, je crois.
Jocelyn. Nous disait que lui, il avait masterisé du Innominé Satanis.
Ouais, plus le côté démon et qui voyait pas comment jouer les anges. Donc
Et
la base
voilà.
de ce que moi je partageais.
Le jeu globalement est bon et chacun trouvera midi à sa porte. Donc, tout ça pour dire, laissez-nous des messages s'il vous plaît sur notre site. Et puis, n'hésitez pas, si le podcast ne vous plaît, laissez un petit commentaire sur iTunes, ce serait super sympa. Et puis, ça serait bien aussi de dire j'aime à notre page Facebook, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une vingtaine de personnes qui aiment, et je pense que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux que ça. Donc, n'hésitez pas. Avant l'été, on va faire une session en live. C'est-à-dire que
Avant l'été.
Avant l'été.
D'accord.
Jérémy est grand,
c'est ça. Je croyais que c'est pour la rentrée, mais avant l'été.
Oui, avant l'été, on va organiser ça. On va faire notre podcast avec du public. Donc,
mais pas chez moi.
Non, peut-être, public, ça dépend.
Un public en ligne.
Non, on va utiliser les moyens modernes de télécommunication pour faire ça.
Non, mais c'est pour expliquer au public. Le oui. Live, c'est pas un live où...
C'est-à-dire que de chez vous, vous pourrez nous écouter, vous pourrez commenter en live et on va faire ça très bien. Donc là, je vous l'annonce, ça sera avant l'été. Et puis, après, on en reparlera. Vous verrez un petit billet apparaître sur le podcast, mais pour ça on aimerait bien avoir votre retour, on aimerait bien savoir que vous êtes là. On sait un petit peu par la bande que on est écouté et que ça plaît à certains, écoutez, si ça vous plaît il faut nous le dire, merci. Et bien Jérémy, je crois que tu pars en vacances, donc je te dis bonnes vacances.
Merci Olivier.
Et puis moi je vais aller faire le billet, je vais commencer tout de suite, hein, parce qu'il y a du taf.
Ouais, bon boulot.
À bientôt tout le monde, salut.
Au revoir.
Donc le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolué, est sorti le 18 avril.
Évolutif. Il est certes évolué, mais surtout évolutif. C'est ça qui fait la force du jeu.